et ceux de ses frères empruntaient la couleur. Bien loin les jours où on lui jetait de la boue et des pierres. À présent, quand il arrivait dans une ville, des cris de joie l'accueillaient, et au son des cloches, on allait au-devant de lui en chantant des psaumes, des branches de feuillage dans les mains. Il prêchait le retour à Dieu et l'obéissance à l'Église. Réformateur, il ne le fut jamais. La foule qui l'entourait lui taillait des morceaux de sa tunique jusqu'à le laisser presque nu. « Le saint ! Voilà le saint !» criait la foule. « C'est Viva. Qu'en pensait-il ? Nous le savons très bien. « Ne me canonisez pas trop vite, » dit-il un jour lors d'un triomphe de ce genre. « Je suis encore parfaitement capable de faire des enfants. » Précieuse parole qui éclaire tout un aspect de sa vie intérieure, son humilité profonde, le refus total de toute gloire humaine, et cette vue sainement ironique de lui-même qui lui permettait de garder tout son équilibre en présence d'une réussite étourdissante. Peut-être s'interrogeait-il aussi sur le grave problème de l'avenir, organiser sa fraternité et la gouverner. En était-il capable? Il se le demandait. Mais en cela, comme en tout, le Seigneur le guiderait. Patience. On verrait bien. On raconte que saint Bernard fit à pied le voyage d'un bout à l'autre du lac de Genève, sans seulement s'apercevoir qu'il y avait de l'eau à côté de la route. Sa capuce baissée sur la tête, il suivait à la fois son chemin et le cours de sa méditation. Trait qu'on peut admirer et qui met en lumière ce que les Allemands appelleraient la Weltanschauung de François. Autrement dit, sa conception, ou mieux, sa vision du monde si totalement différente. Le plus aimé de tous les saints n'était rien sinon un grand amoureux du monde visible comme du monde invisible. Quand de sa fraternité on fit un ordre, il dut souffrir, parce qu'il voyait un frère en tout être vivant, et que ce terme de frère lui tenait au cœur. Tout entrait dans cette fraternité, parce que tout sortait des mains de Dieu Créateur qui est amour. Il annexait le soleil, et sans hésitation étendait son domaine jusqu'au dernier brin d'herbe et au dernier des insectes. En hiver, il faisait donner du vin et du miel aux abeilles pour les garder en vie durant les grands froids. Il parlait aux fleurs, respirant leurs parfums avec délice et les invitant à louer à leur façon le Seigneur. On s'émerveille de voir qu'un homme à peu près inculte ait pu donner à l'Italie son premier grand poème en langue vulgaire. Il serait beaucoup plus étonnant que ce cri d'amour de la création ne fût pas sorti de la poitrine de François. Il l'avait en lui depuis son enfance. Ses rapports avec les animaux ont fait la joie des générations depuis 800 ans. Par quel instinct reconnaissait-il en lui le frère par excellence? Nous ne le savons pas, parce que nous ignorons à peu près tout du pourquoi de leurs affinités avec la race humaine, et surtout de ce ravissement devant le mystère de la sainteté quand elle se manifeste dans un homme exceptionnel. La vie de François d'Assise en offre des exemples si nombreux qu'on ne sait lesquels choisir. Le loup de Gubbio est un personnage à part qui trouvera sa place un peu plus loin. Mais arrêtons-nous un instant sur le lac de Rieti, où un pêcheur vient d'offrir à François une tanche que François appela frère, lui recommanda de ne plus se laisser prendre comme il faisait toujours en pareil cas, et la remit à l'eau près de la barque. Loin de disparaître, la tanche se mit à frétiller joyeusement devant l'homme de Dieu. Il fallut pour la faire partir que François le lui permit avec sa bénédiction. Les récits de ce genre gardent toute leur nouveauté, leur charme et leur vraisemblance. Libre aux sceptiques d'en sourire. Laissons-les frétiller joyeusement dans leurs doutes. Près de Saint-Serge, en Russie, d'autres animaux témoignèrent de la même tendresse pour la sainteté de l'homme. Il ne pouvait avoir de compagnon plus affectueux que frère Léon, ni plus attentif à toutes ses paroles. Celles-ci devaient être consignées plus tard sur de petits rouleaux de parchemin, et ce sont les fameux « rotulli » qu'on cherche encore dans tous les coins de la terre franciscaine. Puisse-t-on les retrouver un jour au fond d'une bibliothèque ou dans un mur? Il nous livrerait peut-être un François d'Assise que nous ne connaîtrons jamais assez complètement.